se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Martin Hirsch, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Merci d'être avec nous. Directeur général de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Alors, il faut expliquer ce qu'est l'APHP. 100 000 salariés, 39 hôpitaux, 12 000 médecins et de nombreux centres de recherche. J'ai bien résumé?
Oui, c'est à peu près ça.
Et
8 millions de patients par an.
Et 8 millions de patients par an. Vous publiez chez Stock l'énigme du nénuphar. C'est votre journal de bord face au virus au printemps dernier. Nous y reviendrons tout au long de cette interview. D'ailleurs, vous n'avez pas choisi le nénuphar par hasard. Pourquoi? J'ai appris beaucoup de choses finalement sur le nénuphar. Un nénuphar double chaque jour. C'est bien cela, hein? Oui. S'il met 29 jours pour couvrir un étang, combien mettra-t-il de jours pour couvrir la moitié de l'étang?
Oui.
C'est combien?
C'est juste une journée.
28 jours, voilà.
Oui.
28 jours.
Parce que, et c'est ça, c'est une manière, le nénuphar, tout le monde a vu.
Oui.
Des nénuphars sur un
oui.
étang.
Oui.
Ça double. C'est comme le virus. Quand c'est exponentiel. Le mot exponentiel, certains s'en souviennent de leur année de collège. D'autres l'ont oublié. Celui-là nous le rappelle. C'est-à-dire que, prenons les malades.
Oui.
Si on a 100 patients en réanimation, on peut en avoir 200 la semaine suivante. Si ça double, c'est 400, puis 800, puis 1600.
Puis 1600. Progression exponentielle. C'est vrai que ce mot exponentiel revient partout. Maintenant, à la une des journaux, progression, nous sommes dans une progression exponentielle.
On est dans une progression exponentielle, ce qui change par rapport à ce qu'on a connu au mois de mars. Pour l'instant, c'est le temps de doublement.
Oui.
Début mars, ça doublait tous les 3 jours. Là, dans la population générale, ça double tous les 15 jours. En tout cas, c'était ce qu'on voyait la semaine dernière. Dans nos hôpitaux, ça double toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc ça double plus lentement, c'est pour ça qu'on ne sent pas la même urgence que celle qu'on sentait au printemps, mais il y a aujourd'hui un doublement et c'est pour ça qu'on a tous envie de casser cette dynamique et on peut la casser.
Bien, on peut la casser, on va en parler Martin Hirsch, mais une question directe, sommes-nous entrés dans la deuxième vague?
C'est une question directe, moi je ne sais pas faire de réponse directe à cette
oui.
question,
non, mais
parce que la question est tellement... Elle est tellement... connotée, qualifiée.
Ça, oui.
Et par ailleurs, si je peux juste me permettre...
Nous ne sommes jamais sortis de la première.
Si, bien sûr qu'on est sortis. Si, si. On a vu au mois de juin,
oui.
Alors que tout le monde s'attendait à un rebond après le déconfinement, on a vu un moment de calme. Moi, je le vois quand on regarde, par exemple, les personnels. Au mois de juin, pendant le printemps... On a eu à peu près 5000 personnes qui ont été contaminées parmi les personnels de oui. l'assistance publique sur 100 000. Au mois de juin, il y avait 22 contaminations, presque rien si je puis dire. Juillet 68, août 250, première semaine de septembre 100. Voilà. Donc c'est reparti. Quand je dis méfions-nous du vocabulaire,
oui.
une des erreurs qu'on a probablement faites pendant le printemps, c'est trop raisonner par rapport à nos références passées. Donc on avait connu le SARS, vous vous rappelez, 2003,
oui, bien
etc.
Sûr, bien sûr.
Et le SARS, il n'avait pas beaucoup diffusé finalement. Donc on s'est dit, ça doit être pareil. Donc se dire que la période d'aujourd'hui va être exactement comme celle du printemps, ça serait aussi une erreur. Donc on va l'appeler autrement. En tout
on
cas, ça sera,
autrement.
Ça sera, c'est la dynamique d'automne actuelle, du début de l'automne, et c'est pas mieux.
Dynamique actuelle du début de l'automne qui laisse présager un hiver difficile.
Un automne déjà compliqué et un hiver qui peut être très difficile, oui.
Et un hiver qui peut être très difficile.
Et on n'est pas en train de manipuler les gens par la
non.
peur.
Moi, je vais vous poser cette question parce que L'aspect psychologique des choses est très important, vous le savez, dans la lutte contre un virus,
ouais.
plus que jamais. Et les Français ont peut-être changé dans leur comportement. Ouais. Mais je voudrais développer
sur l'hiver. On a tous envie de pouvoir dire des choses rassurantes.
Oui.
On aurait envie, nous aussi.
Oui.
Pas, on a des tas de choses à faire dans les hôpitaux. Donc quand on prend un ton grave et quand on dit que les choses sont plus compliquées, c'est pas pour emmerder les gens, c'est pas pour se rendre intéressant, c'est juste parce qu'on a envie qu'ils se protègent, qu'on puisse les protéger.
Bon, quelle est aujourd'hui la situation ? Parce qu'on va être concret là. Mmh. Quelle est aujourd'hui la situation dans les 39 hôpitaux de la PHP ?
Alors, quand on regarde du point de vue de l'hospitalisation,
oui.
on a cette augmentation qui a frémi en juillet, s'est confirmée en août et commence à s'accélérer en septembre. Pour autant, on a beaucoup moins de patients qu'on en avait auparavant. Ce que je vois aujourd'hui, on a des malades en réanimation dans à peu près toutes nos réanimations. Je crois que je n'ai pas une seule réanimation sans malade grave atteint de Covid. Il y en a partout. Aujourd'hui, en petit nombre, sauf dans deux hôpitaux.
Lesquels ?
Bichat et la Pitié-Salpêtrière, où ils ont déjà plus d'une dizaine de patients en réanimation. Donc on a aujourd'hui, on n'est pas du tout à la saturation. Mais encore une fois, avec un rythme de doublement, on sait qu'on peut...
Alors, est-ce que ces patients sont différents ? Différents au niveau de l'âge, différents avec des comorbidités ou pas ? Est-ce que c'est différent ?
Alors, ce que vous direz, si vous aviez un réanimateur de la paix en phase, ce que je ne suis pas...
Oui, non, vous n'êtes pas, mais...
Il vous dirait une première chose...
Toutes les informations vous remontent.
Il vous dirait une première chose, c'est que la moyenne d'âge est à un an près strictement la même.
Oui.
C'est-à-dire qu'au printemps, moyenne d'âge en réanimation, 62 ans, aujourd'hui 61 ans.
Oui.
Il y a une différence considérable. Que dans les patients en réanimation, ils le voient le même type de profil. Qu'il y a peu de différence. De la même manière, nos médecins ne considèrent absolument pas qu'il y a eu un changement dans le virus. Ce qui a changé, c'est les couches de la population dans lesquelles le virus a le plus circulé pendant la période d'été, qui sont effectivement... plutôt chez les plus jeunes, qui sont a priori moins sensibles, sauf s'ils ont de fortes comorbidités. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impact aussi fort et aussi immédiat dans les patients qui sont hospitalisés ou en réanimation.
Bien, il y a des médecins, des chercheurs, vous les avez vus, qui signent des pétitions pour dire la communication est anxiogène, on en fait beaucoup trop, les dangers sont exagérés. Est-ce que les dangers sont exagérés, Martin Hirsch ?
À mon sens, non.
Non.
À mon sens, non.
Bien.
À mon sens, non.
Oui, mais regardez regardons ensemble l'aspect psychologique des choses.
Oui.
Aujourd'hui, le discours reçu par les Français... n'est pas le même que celui du printemps. Je veux dire par là que des Français, nombreux, ne font plus confiance au discours officiel et même au discours des médecins. Pourquoi, Martin Hirsch ? Pourquoi ?
D'abord, on a envie d'entendre un certain discours et donc il ne faut pas céder non plus à la facilité de dire puisque la population attendrait ce discours-là, on va lui servir ce discours quitte à se contredire plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a eu pendant toute cette période des messages un peu contradictoires. On rappelle sur les masques, etc., qui font que on se dit on va prendre plutôt la partie la plus favorable du discours. Et puis on a envie que le discours soit cohérent avec la réalité qu'on a envie de ressentir. Donc il y a tous ces phénomènes-là. Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution face à ça, c'est de continuer à dire la vérité. C'est comme devant le prétoire. Rien que la vérité, toute la vérité, et je le jure.
Oui, mais...
Et donc dans toute la vérité, il y a aussi les vérités qu'on ne connaît pas sur des choses qui sont hypothétiques.
Oui,
donc,
mais
vous avez vu quand je vous réponds.
Oui,
je vous réponds voilà ce que diraient les médecins parce que je ne vais pas passer pour un médecin.
Oui, bien sûr.
Deux, je vous dis exactement quelles sont les données aujourd'hui. Je ne vous dis pas précisément comment je les vois dans 15 jours ou dans 3 semaines. Je ne suis pas Madame Irma. Mais je vous dis ce qui nous paraît le plus probable.
Martin Hirsch, quand nous lisons et nous entendons « cette maladie n'est pas plus grave que beaucoup d'autres », quand l'exemple suédois est brandi comme un étendard, la Suède vit normalement avec le même virus. Et que répondez-vous à cela? Vous savez que ça entre dans l'esprit de nos concitoyens.
J'y réponds une chose très simple. Oui. Il faut aussi que nos concitoyens aient la même cohérence que celle qui demande aux responsables publics. C'est-à-dire, s'ils disent, je vais raisonner par l'absurde. Est-ce que ils demandent qu'il y ait un référendum disant voilà le nombre de morts que nous souhaitons, nous 30 000, 50 000, 100 000, voilà ce que on considère comme supportable. Le non-dit, il est là-dedans. C'est-à-dire, on considère, et je pense à juste titre, que ce que demandent les Français à leurs responsables publics, médicaux, c'est qu'il y ait le moins de morts possible. Moins de morts possible, ça veut dire un certain type de comportement, ça veut dire un certain type de mesure. S'ils considèrent que... on a exactement le même sujet sur la voiture et la limitation de vitesse, c'est exactement le même sujet. On peut pas avoir en même temps pas de limitation de vitesse et moins de morts. Donc il y a un moment, c'est tout. Alors que l'enjeu soit démocratique, que le débat existe là-dessus, mais on peut pas avoir l'un sans avoir l'autre.
Alors hier, d'autres médecins, des professeurs de médecine, ont demandé aux Français d'éviter les rassemblements privés. C'est une bonne chose, parce qu'il y a des mesures à prendre, là.
Oui.
On est d'accord.
Oui.
Rassemblement privé. En Grande-Bretagne, pas plus de 6 personnes. Est-ce qu'on doit, en France, établir les mêmes règles?
Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes règles, mais il faut probablement réduire... pardon, je vais faire juste un tout petit truc d'explication. Oui. Nous, on vient d'enlever notre masque pour 10 minutes, on va le remettre parce qu'on a cette distance-là, etc.
Sûr.
On l'avait juste à la dernière seconde.
Oui.
Déjà, on pourrait se poser la question, mais on l'a fait comme cela. Mais il y a beaucoup de gens qui portent leur masque 10 heures par jour, pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils sont dans leur bureau, etc.
Oui.
Très bien. Mais s'ils passent ensuite 1h20 agglutinés en grappe dans un bar en très grande proximité, ça, ils vont perdre tout le gain de leur journée en 1 heure. Ce qu'on observe aujourd'hui, nous on le voit en faisant effectivement nos enquêtes sur quelles sont les circonstances de contamination. Regardez ce qui se passe dans beaucoup de facs aujourd'hui. Ils sont dans les étudiants sont dans l'amphithéâtre, masqués, probablement qu'une place de différence. Et puis ensuite, s'il y a rendez-vous tous au bar pour les 2 heures, ils perdront tout ce qu'ils ont gagné pendant la journée. Donc, il y a probablement à agir là-dessus, si on veut, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec les hôpitaux surchargés et trop de morts.
D'ailleurs, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande l'interdiction des fêtes de mariage.
Exactement. Et la fermeture des plages.
Et la fermeture des plages.
Voilà.
Est-ce qu'à Marseille, à Bordeaux, il y aura des mesures annoncées aujourd'hui? En Guadeloupe, on doit, par exemple, fermer les bars à 22h? Est-ce qu'on doit éviter, je ne sais pas, moi, des mesures un peu coercitives? Et le gouvernement, on a la sensation que le gouvernement hésite, parce qu'il y a des impératifs économiques, Martin Hirsch. Hésite et ne dit pas franchement quelle est sa politique aujourd'hui.
Alors,
n'y a-t-il pas un flou?
Le Premier ministre a, vous rappelez, ses 3 premières minutes, a expliqué que la situation était grave.
Oui.
Deuxième temps du raisonnement, on a compris que des mesures nationales homogènes pouvaient pas avoir. Être moins accepté ou éventuellement moins adapté. Et donc, il faut s'attendre, région par région, peut-être métropole par métropole, à des mesures qui soient adaptées. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas absurde comme stratégie? Et pourquoi vous le traitez comme flou, mais peut-être on peut le traiter comme du sur-mesure?
Très bien.
Il n'y a pas de plage à Paris. Paris-Plage est fermée.
Ouais. Voilà.
Donc, Muselier, hier, il dit, moi, c'est sur les plages qu'il faut fermer, parce que ça doit pouvoir être documenté, c'est plutôt le soir sur les plages. À Paris, ça sera peut-être plutôt les bars. Quand on regarde les transports, l'utilisation des transports en commun ou le surabondement, c'est peut-être pas la même chose ici qu'ailleurs. Donc, plutôt que de dire un jour un Premier ministre qui fait le catalogue en disant « j'annonce le métro, ce qui fait une belle jambe aux métropoles dans lesquelles il n'y a pas de métro » ou « j'annonce les bars, ce qui fait, ou les plages, ce qui fait, etc. », on va s'apprêter à avoir effectivement régulièrement des mesures territoire par territoire. Mmh. Et tout à l'heure, avant l'émission, vous me demandiez l'Allemagne, et vous me disiez, l'Allemagne, elle fait des choses qui sont plus géolocalisées. Donc on va faire plus de la géolocalisation, comme on fait dans notre vie quotidienne.
Parlons du dépistage. Est-ce qu'il ne faut pas rendre le dépistage obligatoire pour les populations à risque? les personnes qui travaillent dans les EHPAD, mais surtout le personnel de santé, les enseignants.
Alors, sur le dépistage,
oui.
Le dépistage est un élément majeur.
Majeur.
On a réussi quantitativement à monter. Visiblement, les Français sont courageux. Ils acceptent de se faire gratter le nez quand il le faut, puisqu'il y en a 1 million par semaine
qu'ils le font.
Non, pas hypochondriaque. Je pense pas hypochondriaque. Non. Je pense que plutôt responsable. Hein.
Bon.
On a dit d'un côté qu'il y avait un petit côté parfois de contradiction et d'insouciance. Là, il y a un côté de responsabilité. Ceci a un impact sur la rapidité du dépistage.
Oui.
Rapidité, mot-clé. Et donc, c'est pour ça que nous avons engagé les moyens de pouvoir mettre à disposition le plus vite possible des tests rapides qui ont deux avantages.
Tests antigéniques.
Hein. Antigéniques.
Oui. Des tests antigéniques.
Oui, qu'on fasse le par opposition
à PCR.
PCR, c'est donc l'ADN qu'on va ou l'ARN qu'on va multiplier.
Voilà.
Et là, c'est la capsule du virus dont on va regarder si on la trouve présente ou pas.
Bon. Quand ces tests antigéniques, quand est-ce que ils seront
quand est-ce qu'ils seront commencés vendredi dernier?
Ils ont commencé vendredi.
Nous, on a commencé vendredi dernier
à
regarder comment ça fonctionnait.
Mais quand est-ce que le public pourra les utiliser?
On va continuer dans les jours qui viennent. Il faut qu'un arrêté soit pris pour autoriser à ce qu'il soit utilisé hors laboratoire. Un arrêté ministériel, je pense qu'il va être pris rapidement. Je pense qu'il va être pris rapidement.
Dans la semaine?
Très certainement. Très, très certain.
Dans la semaine, nous aurons la possibilité, d'avoir recours à des tests antigéniques.
Dans la semaine, ces tests seront utilisables, seront autorisés. Je rappelle les deux différences. La première différence, c'est qu'effectivement, on a le résultat au bout de 20 minutes. La deuxième différence, c'est qu'on n'a pas besoin de les faire dans des laboratoires de biologie spécialisés. Ceux dans lesquels il y a aujourd'hui la queue ou le débordement, des publics ou des privés.
Alors, ces tests, je les trouverai où ?
Alors, ces tests, ils resteront entre les mains de professionnels de santé, mais qui pourront...
Un médecin généraliste, par exemple, pourra pratiquer ces tests.
Ça sera probablement des équipes qui feront en sorte que, par exemple, dans toutes ces... ce qu'on appelle les Barnum les aéroports, on pourra plutôt proposer ces tests rapides que de proposer la PCR.
Et on
aura
le résultat en combien de temps ?
Et on aura le résultat en une demi-heure. Alors, s'il y a 25 personnes qui sont en même temps,
peut-être
une demi-heure, puis 35 minutes, puis 40 minutes, etc. Mais c'est cet ordre de grandeur. Et donc, c'est pour ça qu'on se décarcasse beaucoup sur ce sujet-là.
Oui, je sais.
Parce que je pense que ça peut... À la PHP et partout.
Nous, fiabilité de ces tests ?
Fiabilité de ces tests ? Tout à fait adapté à du dépistage. Alors là aussi, on va prendre 2 secondes quand je disais, vous êtes symptomatique, vous avez rencontré quelqu'un de symptomatique, le test rapide n'est pas pour vous. Allez dans un laboratoire, faites un test PCR. Vous êtes simplement, vous avez été dans un rassemblement de beaucoup de monde, où vous savez pas quelle est exactement votre situation, ou etc. Là, le test rapide est la bonne réponse. Parce que il est moins sensible, un peu moins sensible. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que sur 10 patients contaminants, repérés par la PCR, probablement le test rapide en repérera 9. C'est super intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe dans nos têtes. Donc on dit, est-ce qu'on préfère en perdre 1 sur 10 mais en gagner beaucoup en faisant plus, en allant plus vite et en permettant de prendre les mesures? C'est ça le raisonnement de santé publique qui fait que je crois qu'il y a un consensus pour considérer que c'est un outil complémentaire, utile.
Donc avant la fin de la semaine, nous pourrons être testés de la sorte.
Attendez,
c'est possible parce que j'ai entendu, vous me dites que dans la semaine, le gouvernement...
Je vais vous dire pourquoi, c'est pas par pinaillage...
Allez-y, Martin.
Quand le ministre a annoncé qu'on y allait, le lendemain, notre standard a été débordé par des appels qui se demandaient dans quel... La semaine dernière, on a obtenu les tests. Vendredi, on a commencé à regarder. Cette semaine, il y aura probablement l'autorisation de pouvoir faire d'autres opérations. Je pense qu'on fera d'autres opérations de réglage. Je ne vais pas vous dire où et quand, mais cette semaine, il se passera quelque chose. Aujourd'hui, on dispose de 100 000 tests, donc c'est pas des millions par rapport à ce qui pourrait être fait. Et ça veut dire que, je pense, courant septembre, d'ici la fin du mois de septembre, on pourra rajouter ça à cet arsenal et prendre l'habitude de pouvoir l'utiliser.
Et courant septembre, c'est ça ce que public pourra y avoir accès.
Je pense.
Avant la fin du mois de
septembre. Sauf s'il se passe quelque chose d'ici
bien
là.
Bien sûr.
Vient de contredire. Mais c'est à peu près ça. Donc c'est pas, voilà. Cette semaine, ça continue à être l'autorisation de pouvoir roder le dispositif.
J'ai deux questions, Martin Hirsch. Le traçage. Où en sont ces fameuses brigades sanitaires dont on nous avait beaucoup parlé?
Alors, il y a deux moyens de faire le traçage. Mmh. Il y a un moyen de plateforme téléphonique qui se fait par l'assurance maladie, les médecins et les équipes de l'assurance maladie, qui, je crois, appellent à peu près tout le monde. Hein. Comment ça marche? Chaque personne qui se fait tester dans un laboratoire, ça remonte dans un système informatique. Le système informatique arrive à l'assurance maladie. On connaît chaque jour le nombre de gens positifs et, je crois, dans la journée, on les appelle en leur disant « Vous avez eu un résultat positif, dites-nous qui vous avez fréquenté, pensez à vous isoler, etc. etc. » Avec comme problème le délai pour aller dans le labo, le délai de rendu dans les résultats. Et puis, on a mis en place en parallèle un deuxième système pour aller au-devant des personnes. C'est un système qu'à Paris on appelle le système Covisan, dans lequel des volontaires ou des professionnels vont directement chez vous pour pouvoir éventuellement prélever votre entourage. Et donc on va arriver à faire à peu près 1000 interventions par jour.
1000 interventions par jour.
On va arriver à 1000 interventions
par jour. En Île-de-France.
En Île-de-France.
1000 interventions par jour. J'ai une dernière question sur les vaccins. Je sais que la PHP est partenaire. Où en est-on? Où en est-on?
Alors, on en est au début, en tout cas.
Oui.
Les vaccins, dont je rappelle que on ne sait pas quand on aura le vaccin contre Covid, on sait quand on a le vaccin contre la grippe. On l'a aujourd'hui.
Oui, on l'a aujourd'hui. Hein.
Donc là, le message vous dites, aujourd'hui, au lieu de spéculer, personne, quoi, le type qui vous parierait 100 balles pour le jour d'arrivée du vaccin contre le Covid, c'est un type qui peut prendre des risques. En tout cas, celui qui sait vous dire que le vaccin contre la grippe existe et que plus on l'utilise, mieux on sera protégé, y compris contre le Covid, parce qu'il n'y aura pas la confusion entre les deux, celui-là, il prend pas beaucoup de risques.
Et le
message qu'on peut faire passer à tous nos auditeurs, n'ayez pas peur du vaccin contre la grippe. Nous, la communauté médicale, qui est pas toujours unanime, elle a été unanime pour dire poussons la vaccination contre la grippe cette année encore plus que les autres années.
Et le vaccin
quand on en appelle au civisme, il y a un civisme de la vaccination contre la grippe, il y a un civisme des professionnels pour le faire.
Et le vaccin contre le Covid, pas avant l'année prochaine.
Je pense pas avant l'année prochaine, effectivement.
Merci Martin Hirsch. Merci. Je rappelle le titre de votre livre. C'est passionnant parce que vous avez accompagné toutes vos équipes, tous les patients, tous les malades pendant la crise du printemps dernier. Vous racontez ça au jour le jour face au virus. C'est absolument passionnant. L'énigme du nénuphar aux éditions Stock. Oui.
Et c'est ces équipes qui ont été fabuleuses. Ouais. Et voilà. Et donc il faut leur faire confiance quand elles disent aujourd'hui. La situation nécessite la plus grande vigilance.
Merci beaucoup, Martin Hirsch. Il est 8h56, RMC BFM TV.